Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Mathilde.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Eh ben écoute, ça va très bien et toi?
Bah écoute, ouais, plutôt bien. Matinée qui a commencé très tôt, à 6h du matin. Et puis après, j'ai pu voir mon fils, quelques petits couacs d'organisation. Mais nous sommes là à l'heure et je suis vraiment hyper heureux d'être là aujourd'hui avec toi.
Moi aussi, je suis super contente et merci encore pour le moment d'échange. Je sens que ça va être super.
Ouais, bah j'espère. Pour le contexte, on a été mis en relation par les étoiles du sport, notamment parce qu'il y a une super campagne en ce moment que j'adore, qui s'appelle Le sport a du cœur et sur laquelle tu participes. Donc on va en reparler un petit peu parce que c'est une très chouette campagne et j'ai envie de voir et de comprendre un petit peu quel est le sens que ça fait sur toi. Mais je suis vraiment hyper heureux parce que t'as vraiment un parcours
t'es encore super jeune et en même temps j'ai l'impression que t'as un parcours tellement riche et je suis vraiment très content de pouvoir et t'as l'air tellement mature aussi que je suis content qu'on puisse approfondir certains sujets durant cette conversation. Mais comme je te le disais, il y a une tradition sur ce podcast qui est de commencer toujours par la même question. Et cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors mon premier souvenir de sport, c'était un de mes premiers matchs de basket. Donc j'étais encore toute petite, on jouait encore sur des terrains et des paniers, ils étaient en plastique, donc ils étaient pas très très hauts les paniers. Et c'est vrai que j'adorais ce sport. Et en fait, mes parents m'ont emmené et puis j'ai découvert ce que c'était le basket. Et en fait, mon premier match, quand j'ai marqué mon premier panier, j'avais l'impression que j'étais championne du monde. Enfin, pour moi, c'était énorme. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand j'ai mis mon premier panier. Vraiment, je me suis retournée et il devait y avoir vraiment toute ma famille, mes 4 grands-parents, mes parents, mon frère, ma sœur. Enfin, c'était et franchement, quand je me suis retournée et je les ai vus, ils ont sauté de joie, ils étaient trop contents alors que je venais de marquer un petit panier juste 2 points en poussine. Donc non, franchement, ça m'a marqué énormément et c'est là où j'ai commencé à vraiment aimer le sport. Et aimer en fait plus les sensations que ça procurait en fait aux gens que j'aime. Et ça a été un de mes premiers souvenirs physiques, en tout cas dans le basket.
Ok, trop cool. Et tu sais pourquoi tu t'es inscrite au basket ? Parce qu'il me semble que tu as commencé super tôt, non ?
Ouais, j'ai commencé à 4 ans. Alors en fait, j'étais très grande pour mon âge. Et à la base, au basket, en fait, mon père voulait qu'on fasse tous. Donc j'ai une petite sœur qui a 18 ans, un petit frère qui a 16 ans. Et en fait, dès le début, donc mes parents c'est des mordus de sport. Ma mère est professeure de PS dans un lycée, et mon père a fait pendant 40 ans du foot, donc vraiment à fond dans le sport. Et pour nous, c'est vraiment pour la santé hyper important. Donc en fait, dès le début, ils ont voulu nous mettre un sport collectif et un sport individuel pour qu'on ait les deux et pour que voilà, sport individuel pour un peu plus s'épanouir individuellement parlant et sport collectif pour apprendre les valeurs. Et c'est ce qui nous a éduqués tout au long de notre vie. Et du coup, en fait, donc j'étais très grande et j'avais soit le choix de faire du hand, soit du basket, enfin mon père. Et en fait, il avait un ami à lui qui avait le club de basket et normalement, on fait du basket qu'à partir de l'âge de 5-6 ans, enfin 5 ans des fois généralement, parce que voilà, on est un peu plus grande et tout ça. Et vu que j'étais très grande, et que on connaissait bien le club de basket, ils ont accepté de me prendre et du coup en fait je suis partie. Du coup c'est pour ça que j'ai fait du basket à l'âge de 4 ans. J'ai intégré le club du Sapella, un tout petit club vers chez moi, donc super sympa, et c'est pour ça que j'ai commencé le basket.
Ok, d'accord. Écoute, chouette histoire, c'est original. Et effectivement, c'est rare de commencer aussitôt parce que il faut un peu de coordination pour pouvoir dribbler, pour pouvoir courir avec un ballon et tout. Donc, ouais. Mais trop chouette. Et t'es repassé, je sais pas, récemment dans ce club pour leur faire un petit coucou
j'y fais. C'est vrai que alors du coup, j'y suis restée jusqu'à mes 11 ans. Donc j'ai fait quand même pas mal d'années là-bas et dès que je peux j'y retourne. J'ai été la marraine, il y a une équipe qui était en National 2 chez les garçons et du coup j'étais la marraine il y a 2 ans ou 3 ans de ce club, donc pendant une année. Donc c'est vrai que j'y suis retournée pas mal. Et mon frère avant faisait du basket aussi dans ce club, donc j'allais le voir jouer dès que je rentrais parce que j'adorais, franchement ça me rappelait des trop bons souvenirs et tout, donc j'y retourne dès que je peux, et puis je suis toujours en contact avec les gens du club parce qu'ils sont vraiment super chouettes. Donc non, dès que je peux, franchement, je vais faire un petit coup.
Ok, bon trop chouette, trop chouette. Et t'as mentionné le fait que que toute ta famille soit très sportive. Est-ce qu'il y avait un esprit un peu de la gagne ou pas? Parce que moi je vois dans les femmes.
Déjà rien que les parties de cartes, le parti de Monopoly, ça terminait tout le temps en cri parce que on est tous des mauvais perdants et on déteste perdre, donc c'était toujours assez laborieux. Quand on faisait une partie de cartes en famille ou un jeu de société, on savait très bien comment ça allait finir. Tout le monde était un peu fâché, mais non, c'est vrai que on est 5 dans notre famille et tout le monde en fait a son sport vraiment. Chacun de nous s'épanouit dans un sport. Moi, c'est à l'occurrence c'est le cyclisme. Mon frère, il s'est mis au décathlon il y a 1 an et il s'épanouit. Okay. Maintenant, il est en sport études. vraiment à fond dedans. Pour lui, génial. Son sport, c'est vraiment sa vie. Et puis ma sœur, pareil, elle a trouvé l'équitation vraiment. Donc elle est à fond dedans. Elle vise. Elle a plein d'objectifs aussi. Donc chacun a son niveau. Et mais c'est ça le plus important. Donc c'est vrai qu'on est vraiment. On a tous en fait un sport qui nous correspond et on s'épanouit dedans. Quoi. Au moins chacun a son univers, va pas empiéter sur l'autre. Et, ouais. Et voilà quoi, chacun s'épanouit comme il le souhaite, à son rythme, dans son univers.
Ouais, mais c'est trop chouette que vous ayez tous un peu un sport de prédilection différent. Est-ce que c'est ça vient peut-être de ta maman qui a éveillé un peu qui a fait un peu un éveil sportif sur différents sports? Parce que tu vois, normalement, tu sais, dans les familles un peu sportives, généralement, il y a un sport phare que tout le monde fait, et puis ouais. De temps en temps, il y a le petit frère ou la petite sœur qui a pas envie de faire comme les grands et qui va choisir un autre sport. C'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais en tout cas, c'est rare, tu vois, d'avoir pour toute une fratrie de pratiquer des sports différents. Comment ça se fait?
En fait, je pense que dès le début, on a été bien. Donc, en fait, on a tous touché à plein de sports. Ouais. Moi, donc, c'était basket. J'ai fait de la danse classique, de la danse moderne. Et puis, je pense que l'UNSS aussi au collège m'a vachement aidée parce que du coup, j'ai fait plein de sports là-bas. Et c'est vrai que j'ai trop aimé le judo, le rugby. Le hand, j'étais à fond, franchement, on était très sportives et je pense que on avait besoin aussi de se défouler. Par exemple, mon petit frère, vraiment, à un moment donné, il faisait trois sports différents, tennis, judo, basket. Et, ouais. Et en fait, c'était vraiment histoire qu'on touche à tout. Ma sœur, c'est pareil, elle a fait de la danse. Donc, c'est vrai qu'on était vraiment, je pense, le collège nous a bien aidé aussi. Parce que, par exemple, ma sœur a découvert l'équitation en primaire. Vraiment, ça a été, je pense que c'est pour ça que le sport à l'école, c'est vachement important parce que ça permet de découvrir plein de sports et ça se trouve, ouais. De découvrir un sport que l'on adore. Donc vraiment, en plus, le fait que ma mère soit professeure de PS et mon père, qui a fait 40 ans du foot, bon, lui, il voulait clairement pas que son fils fasse du foot parce que, bon, il disait que, enfin voilà, c'était un peu, il avait eu du mal avec la mentalité du foot à l'époque et du coup c'est vrai que bon tout de suite dès le début il a mis judo, basket, tennis, enfin il a jamais fait de foot mon frère. Donc c'était juste le but que en fait on se défoule, on se dépense parce que fallait pas rester dans la maison derrière un écran ou quoi. Donc c'était vraiment tout de suite en fait on n'avait jamais le temps de se reposer ou penser à regarder la télé ou quoi parce que on avait basket, on avait ci, on avait ça. Ouais. Donc je pense pour eux c'était important aussi et puis voilà fallait qu'on moi j'étais grande costaud donc il fallait que je me dépense quoi et c'est vrai que non franchement au fur et à mesure des années après on a les études on a aussi nos envies nos goûts et tout ouais. Ça donc c'est vrai qu'après ça se restreint et là on a vraiment trouvé chacun notre sport et c'est ça le plus important.
OK. Et j'avais deux questions. La première, c'est de savoir si tu avais eu ta maman comme prof de sport ou vous étiez peut-être pas dans le même collège ou la même école.
Non, ma mère était elle est professeure DPS dans un lycée professionnel, mais en fait le collège où j'étais était collé à son lycée, donc j'envoyais tout le temps mes conseils de classe parce que vu que j'étais la déléguée et ma mère c'était la déléguée des parents, donc à chaque fois je pouvais pas mentir, je pouvais pas dire quoi que ce soit parce qu'elle savait tout sur tout, sur nos bulletins, sur nos notes, elle était avec les profs, donc c'est vrai que là c'était un peu plus compliqué mais j'ai jamais eu comme prof mais en tout cas elle était très présente quand même.
Ouais, mais du coup si t'étais délégué de classe c'est que t'étais un peu élève modèle ou plutôt à l'inverse, je sais pas
Ouais, j'adorais j'ai été déléguée toutes mes années de collège et lycée parce que j'aimais bien en fait déjà j'étais capitaine de mon équipe pour moi de basket donc je pense que c'était un peu la continuité du truc. J'aimais bien être déléguée pour pouvoir aider tout le monde parce que il y en a qui ont un peu plus de mal à l'école, il y en a qui c'est juste l'école les intéresse pas mais enfin ils ont un bon fond et puis il y en a qui sont un peu maladroits donc c'était juste en fait j'étais pas l'élève modèle dans le sens oui, j'étais tout le temps celle qui voulait lire les textes, j'étais tout le temps en premier rang, tout ça parce que j'adorais l'école et que je voulais avoir de très bonnes notes et que c'était une compétition aussi pour moi, fallait que je sois la meilleure, donc j'étais à fond vraiment, j'étais à fond dans l'école, mais j'étais pas la fille qui allait caster lui a triché ou lui m'a demandé les réponses ou des trucs comme ça. J'étais bien vue de tout le monde et vu que je faisais pas de distinction entre les différents niveaux ou quoi que ce soit, bah je m'entendais bien avec tout le monde et puis moi je faisais mon petit chemin. Voilà, j'étais à fond dans ma compète, machin, première de la classe et tout. Mais en même temps, bah voilà, j'étais bien vue. Donc, franchement, c'était des bonnes années.
Ouais, trop chouette. Bah écoute, merci pour ces petites anecdotes.
De rien.
Hyper précieuse. Moi, j'adore ça, parce que ça me replonge un peu aussi bon, sur moi quand j'étais un peu plus jeune. Mais en tout, trop chouette de savoir ça sur toi. Et du coup, être toujours capitaine, toujours délégué. Et ça, c'est quand même. Enfin, c'est un trait de personnalité marqué, quoi. Enfin, au niveau du leadership et tout, c'est hyper poussé, quoi. Je sais pas, c'est un truc que tu travailles encore ou que t'essayes de cultiver maintenant. Tu vois, un peu ce leadership, cette envie de d'être capitaine, cette envie d'être la leader de l'équipe.
Bah, c'est honnêtement, je l'ai jamais travaillé. C'était assez naturel quand j'étais plus jeune et quand j'étais en basket. Et puis quand je suis arrivée au vélo, c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué dans le sens où c'est un sport qui est vachement individuel. Donc en fait, j'ai quand même gardé ce côté collectif. Et en fait, moi, mon but à l'heure actuelle, c'est juste apporter ma touche en fait en équipe de France et juste que, enfin voilà, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai pas de problème et c'est juste bien m'entendre avec tout le monde et s'il faut des fois bah faire des trucs en groupe ou voilà, bon là c'est un peu compliqué avec le Covid etc, mais juste mon objectif c'est que en fait j'aime pas quand il y a pas de bonne ambiance tout ça, donc c'est juste tout le monde s'entend bien et voilà, et puis moi j'apporte ma petite pierre à l'édifice dans le groupe France et voilà quoi.
Ok, très chouette. Non, et puis aussi, t'as encore peut-être à apprendre, et puis peut-être qu'un jour ça viendra où tu seras, t'auras aussi un autre profil pour accueillir les plus jeunes, quoi. Et puis j'ai l'impression que
c'est déjà un peu le cas, quoi. Je me retrouve, j'ai 21 ans et je suis la plus vieille ouais. Fille, donc c'est vrai. Bah il y en a qui sont rentrées, donc il y a trois filles qui sont rentrées, il y en a une elle a 16 ans, donc j'ai l'impression ouais. Moi déjà que je suis une maman alors que j'ai 21 ans. Mais ça me dérange pas au final et je me dis bah tant mieux qu'il y ait des filles qui rentrent et j'espère qu'il y en aura d'autres encore.
Ouais, bah c'est cool. En plus si vous êtes une super génération et tout, c'est vraiment trop chouette. Et puis j'ai l'impression que ça se ressent dans tes paroles que t'aimes beaucoup inspirer les autres et tirer les autres vers le haut et ça se sent aussi je trouve sur tes réseaux sociaux. Donc tu vois, on sent que t'as envie de motiver les filles sur je sais pas d'ailleurs les filles comme les garçons, mais on sent qu'il y a un côté où tu as envie de montrer un peu l'exemple, donc ça te va très bien je trouve.
Merci, bah c'est vrai, je me dis en fait on est tous là sur cette terre et tout ça et moi mon but c'est qu'au final faire le plus de que je serve à quelque chose en fait, et je me dis j'ai de la chance d'avoir une certaine notoriété minime hein, comparé à d'autres athlètes, mais d'avoir un peu de notoriété sur les réseaux et tout ça, et je me dis enfin voilà c'est normal de montrer l'exemple mais de montrer aussi ma vraie personnalité franchement sur les réseaux, bah voilà c'est sans filtre, les gens même le diront, enfin je suis à fond avec mon chien, enfin c'est vraiment des trucs, je montre vraiment ma vraie vie quoi. Ouais. Et je me dis si ça peut aider des jeunes filles comme des jeunes hommes à continuer leurs études, à faire du sport de juste que ce soit même pas forcément de haut niveau mais juste du sport, parce que en fait c'est surtout ça à la base, le sport c'est hyper cool, ça apporte tellement de trucs et si je parle pas du sport de haut niveau, je parle même du sport en général, donc je me dis il y a tellement de gamins qui sont privé malheureusement, et je me dis c'est pour ça qu'il faut quand même pousser les collèges et les lycées, les écoles primaires à faire plus de sport, à tenter plus de trucs. Je sais que c'est pas forcément évident des fois, mais je me dis franchement le sport ça apporte tellement de trucs et c'est grâce à ça, c'est grâce au sport que j'en suis là à l'heure actuelle.
Ouais.
Donc, voilà, clair. Servir à quelque chose en fait et à pousser des gens à dépasser leurs limites.
Ouais, c'est clair. Bah, en plus il y a un côté dans le sport tu vois, moi je viens un peu plus du monde de l'entrepreneuriat. Mon sport à moi pendant un moment c'était de créer des entreprises et de créer des équipes et de créer des projets. mais il y a un côté un peu plus élitiste, je trouve, tu vois, dans le côté parce qu'on peut penser que c'est scolaire, qu'il faut être bon à l'école et tout. J'étais pas bon à l'école, mais il y a pas forcément de modèle, alors que dans le sport, les modèles ils sont accessibles et en même temps, t'as pas cette impression là qu'il y a de barrières en fait. Tu vois, tu peux avoir l'impression que tu vois n'importe qui peut être champion. Il y a il suffit de trouver son sport et derrière d'en avoir envie et de se donner. Et il y a un côté hyper accessible, je suis tout à fait d'accord et c'est cool. Enfin,
Même les champions français, franchement, ils sont hyper accessibles. Quand on voit un Teddy Riner, enfin, qui fait plein de trucs. On en reparlera. Mais pour le sport à du cœur, pour les Restos du Cœur, franchement, tous les athlètes qui étaient présents et on peut se dire franchement, t'as pas forcément le temps ou quoi. Mais non, pas du tout. En fait, je trouve que franchement, en France, les champions, enfin. Renaud Lavillenie et même des plus jeunes, Roman Dico, enfin des gens qui sont champions dans le sport, franchement, ils sont vachement accessibles et je trouve ça c'est super top. Et on voit là en ce moment, il y a la semaine paralympique olympique pour le sport à l'école, chacun trouve un moment pour faire soit une vidéo avec des élèves, soit de se déplacer. Donc franchement, je trouve ça vraiment bien qu'en France, les champions ils sont vachement accessibles quoi.
Ouais, ils sont très humains, ouais. Ça c'est clair. Franchement, on se rend pas compte. On râle beaucoup les Français, mais on se rend pas compte à quel point on a des champions en or qui se donnent, qui participent à des campagnes et tout. Puisqu'on est sur le sujet, peut-être un peu de cette campagne avec les étoiles du sport et les Restos du Cœur. Tu peux nous dire un petit peu toi avec tes mots. Je sais pas comment est-ce qu'on t'a contacté, qu'est-ce que t'as pu y faire et quel était un peu le sens de cette campagne pour toi.
Donc les étoiles du sport, c'est moi j'ai eu la chance de rentrer dans cette grande famille en 2016 après les Jeux de Rio. En fait tous les ans normalement on se retrouve à la montagne, donc c'était soit à La Plagne soit à Tignes, et en fait tous les athlètes français comme des espoirs ou des champions actuels en fait se retrouvent et ça mélange en fait des générations et générations et c'est franchement top. Moi j'ai eu la chance d'y aller en 2016, donc j'avais 17 ans, je venais à peine d'arriver dans le monde du sport et je rencontrais des Tony Yoka, Alain Bernard, des gens d'expérience qui ont remporté des choses et tout. Donc vraiment j'ai eu cette chance là et en fait les étoiles du sport ça permet donc de mélanger des générations et en même temps donc j'ai eu la chance aussi d'être contactée par la MGEN Academy, donc le groupe MGEN ils m'ont pris dans leur famille aussi. Et en fait les étoiles du sport et la MGEN Academy sont très très liées et en fait ils ont décidé de servir à quelque chose pour une autre cause et en plus en ce moment avec le Covid etc, c'est vraiment compliqué pour beaucoup de monde et ils se sont dit on va servir à quelque chose aussi de par notre notoriété, on va servir à une cause, on va les aider. Et ça a été les Restos du Cœur et coup ils ont décidé de lancer une campagne où en fait 100% des recettes seraient reversées aux Restos du Cœur. Et moi franchement les Restos du Cœur c'est la cause pour quand je vois des gens qui ont pas de chez eux, qui ont pas à manger, qui sont obligés de serrer la ceinture en fin de mois, c'est vraiment quelque chose qui me touche. J'ai plusieurs causes, j'ai des projets dans l'avenir pour plusieurs causes et c'est vrai que celle-là en fait partie. Et donc du coup quand j'ai été contactée par les étoiles du sport, sachant qu'en plus cette année notre regroupement a été annulé, donc on n'a pas pu tous se retrouver à cause du Covid, je me suis dit mais c'est génial de faire un truc comme ça, franchement en plus c'est vraiment pour une bonne cause. Et c'est vrai qu'en fait du coup ils ont lancé cette campagne et ils se sont servis de la notoriété de plein d'athlètes comme Laurent Blanc, Marie-Josée Pérec et pour en fait aider ces personnes qui n'ont pas d'argent, pas assez pour se nourrir juste. Et du coup ils ont lancé cette campagne et donc ça dure 3 semaines et donc on a signé plein de t-shirts, on a enregistré un clip officiel où on a repris la chanson, on a chanté la chanson des Restos du Cœur, donc on voit tous ces athlètes français avec plusieurs générations qui chantent ensemble. On a passé un bon moment dans les règles bien sûr sanitaires et donc c'est vrai que c'était vraiment sympa de pouvoir participer à ce projet et en tout cas j'en participerai je participerai à d'autres projets aussi dans le futur, mais c'est vrai que celui-là, franchement, il me tenait à cœur. Et donc, du coup, c'était vraiment, ça a été vraiment comme une sorte d'esprit d'équipe avec les Étoiles du Sport, la MGMN Academy et les Restos du Cœur et tous les athlètes français. Et donc, du coup, on a fait cette tombola. Donc, il y a une tombola qui a été organisée et tout ça. Et pareil, avec des super trucs à la clé et tout ça pour aider les Restos du Cœur. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à cette à ce projet, à cette expérience, et j'en aspire à d'autres.
Ouais, bah c'était, elle est vraiment chouette cette campagne depuis le début. Bah en fait, pour la petite histoire, si tu veux, je devais partir avec vous à Tignes, et du coup, je discutais un peu avec les Étoiles, et on avait prévu effectivement de faire quelques podcasts en physique, en présentiel, et de se rencontrer un peu. Et quand Coralie m'a dit il fallait qu'on fasse quelque chose à la place et quelque chose qui fasse du sens, moi je lui ai dit je suis partant tout de suite, quoi. Il n'y a pas de sujet. Et en plus, moi aussi, je pense, j'ai une histoire un peu avec, tu vois, les Restos du Cœur. J'ai un attachement, je pense, personnel, qui est très émotif, hein, je pense, tu vois, mais je dois toujours, le concert des Enfoirés, je le regarde toujours, j'achète toujours le CD. Et là, je trouvais que, en fait, l'idée de la campagne était trop bien. Parce que justement, on associe beaucoup les Restos du Cœur aux Enfoirés. Et je trouve que la famille sportive, elle a quand même beaucoup de similarités avec la famille musicale. Tu vois, c'est des personnalités plus ou moins médiatiques, qui se connaissent plus ou moins, qui partagent vraiment des valeurs communes. Et franchement, je trouvais que c'était une campagne vraiment, vraiment réussie. Donc bravo. Et merci d'avoir participé. Et à tous les auditeurs qui nous écoutent, il y a un petit lien dans la bio du compte Instagram extraterrien.podcast. Si vous voulez aller participer à la tombola, vous pouvez participer, je crois, à partir de 5 €, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Et du coup, voilà. Bah, moi, j'ai mis mon petit ticket et peut-être que je gagnerai pas, mais au moins, j'aurais participé. Je suis vraiment très content de l'avoir fait. Ouais, exactement. T'as cité la MGEN Academy et je t'avoue que je connaissais pas du tout avant cette campagne. Est-ce que tu, maintenant, je connais bien parce que du coup, j'ai fait des petites recherches et tout, mais est-ce que tu pourrais expliquer peut-être aux auditeurs, parce que je pense que c'est la première fois qu'on en parle sur ce podcast et pourtant, il y a plein d'athlètes qui sont venus au micro et qui font partie de cette académie. Et du coup, est-ce que tu pourrais en dire deux mots sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté?
En fait, la MGEN Academy, ça vient tout d'abord du groupe MGEN. Et en fait, ils ont décidé de s'associer au sport parce qu'en fait, ils ont retrouvé les mêmes valeurs en fait qu'un sportif, ce qui est le respect, la solidarité, être humble, tout ça. Et c'est vrai que ils se sont vachement retrouvés dedans. Et du coup, ils ont créé en fait la MGEN Academy, qui est un regroupement de plusieurs athlètes pour eux qui sont qui peuvent être des pépites comme déjà des sportifs accomplis. En fait, ce groupe MGEN Academy est vraiment tiré donc par Martin Fourcade et Pierrine Lafont, qui sont vraiment deux sportifs très accomplis. Et c'est vrai que on est un groupe et on est aussi une sorte de famille. Et on se suit chacun mutuellement lorsque il y a des épreuves, quand il y en a qui remportent des médailles ou pas, mais vraiment dans les deux cas, c'est vraiment un soutien de ce groupe. Et c'est vrai que ça nous permet aussi, c'est un soutien vraiment moral, parce qu'on se dit dans tous les cas, eux ils peuvent être là si jamais si jamais ça va pas, si jamais dans le sport c'est compliqué, on sait que ils seront là pour nous soutenir, pour peut-être nous aider pour notre avenir futur professionnel, parce que le sport c'est bien, c'est magique, c'est magnifique, mais ça fait pas toute notre vie, donc il faut penser peut-être à la reconversion après tout ça. Donc c'est vrai qu'on est vachement soutenu par eux, et ça s'appelle la MGEN Academy, et c'est rempli de sportifs jeunes comme plus expérimentés. Ça brasse aussi pas mal de sports, des sports d'hiver comme des sports d'été, et c'est super sympa de faire partie de cette famille, quoi.
Ouais, carrément, ouais. Mais j'ai l'impression que ça tire énormément les athlètes vers le haut. Ces groupes un peu, ou ces moments où tu peux te retrouver, discuter avec des gens qui font des sports complètement différents, partager des choses très similaires et en même temps différentes, mais que tu peux comprendre, tu vois. Peut-être que tu parlais de Teddy Riner ou de Martin Fourcade. Je pense que, tu vois, s'ils te parlent des sensations de leur sport, peut-être que tu pourrais pas les ressentir, mais s'ils te parlent des sensations de l'entraînement, de la difficulté, des sacrifices et aussi de tout le bonheur que tu peux apporter aux autres. Enfin, c'est des choses que vous partagez tous et qui, j'ai l'impression que ça vous enrichit énormément les uns les autres, quoi.
Complètement, sachant que faut savoir que bah du coup dans le sport de haut niveau on a plus de défaites que de victoires malheureusement, et que des fois enfin moi je sais que par exemple pour ma part quand je suis arrivée chez les jeunes j'ai tout gagné tout de suite, et puis bah après forcément on arrive chez les élites et là c'est pas du tout la même chose, et en fait quand on s'est habitué on se dit non mais de toute façon je vais gagner, je vais tout faire pour gagner, etc., et au final on passe pas les huitièmes. Bah en fait on se prend des coups mentalement et tout ça, et d'avoir ces champions qui t'expliquent, qui te disent non mais en fait sans échec tu n'y arriveras pas, parce que c'est pas dans la victoire qu'on apprend le mieux, c'est dans les défaites, dans les échecs. Et là tu te dis ah ouais quand même, si c'est un Teddy Riner qui dit ça, ou une Clarisse, tu te dis ah ouais quand même, bon bah enfin je sais de quoi il parle, et c'est vrai que c'est bien de se sentir aidé, d'être soutenu en fait par ce genre de personnes. Et c'est vrai que il y a plein de, enfin moi j'ai de la chance d'avoir plusieurs sponsors qui font ça, où c'est vraiment des teams en fait, et au final on est vraiment tous dans une grande et même famille, et savoir que dans les bons comme les mauvais moments on a cette famille qui est là derrière, bah c'est top quoi.
Ouais, c'est clair, c'est cool. Écoute, ouais, merci pour les petites précisions. T'as parlé un petit peu effectivement, tu vois, des coups durs et de ton arrivée un peu très précoce au très haut niveau. Du coup, j'en profite pour faire un tout petit retour en arrière, mais je te suis depuis un moment sur les réseaux, du coup j'avais fait des petites recherches et du coup j'ai vu comment t'étais tombé du basket au vélo, mais peut-être que les auditeurs ne le savent pas, et est-ce que tu pourrais raconter cette anecdote? Je sais que tu la racontes assez souvent parce que c'est quelque chose de particulier chez toi, mais j'aimerais bien te l'entendre dire avec tes propres mots, du coup comment on passe du basket au vélo.
Bah moi ça s'est fait vraiment par hasard. Je pense que j'ai une bonne étoile à ce moment-là. J'étais donc au Pôle Espoir, j'ai intégré le Pôle Espoir de basket en 2012. Parce que voilà, je marchais bien au basket, et du coup bah c'est vrai que d'intégrer le Pôle Espoir, c'était une première étape dans ma carrière de basketteuse, parce que voilà, je voulais faire de haut niveau, je voulais faire les jeux et gagner une médaille. Donc c'était vraiment tout de suite, je savais que je voulais faire du haut niveau. Et du coup, en fait, lors de ma deuxième année de sport-études, enfin d'internat au CREPS d'Aix-en-Provence, mon entraîneur de basket m'a fait monter sur un watt bike. Donc un watt bike, ceux qui ne savent pas, c'est un vélo qui calcule en fait la puissance dans les jambes. Et du coup, j'ai fait des données assez impressionnantes pour mon âge et du fait que je ne faisais absolument pas de vélo. Les seules sorties à vélo que je faisais, c'était pour aller au lycée, et encore c'était pour faire 2 kilomètres, donc voilà.
Bon, pour aller le plus vite possible.
J'étais pas toujours à l'aise sur mon vélo, donc mes deux copines basketteuses m'entendent à ce moment-là, je pense qu'elles doivent rigoler, chez elles. Mais il m'arrivait toujours des catastrophes. Bon, c'était assez,
tu peux nous en raconter une?
Une qui m'a marqué le plus, c'est on y allait à vélo, en fait on était toujours à trois, et donc c'était parce qu'on avait sauté une classe, du coup on allait au lycée à vélo, on était en décalé avec le reste du groupe, et en fait un jour c'est pas de ma faute, hein, mais on était sur le bord de la route et on roulait sur la piste cyclable, et je sais pas pourquoi il y avait à un moment donné des voitures qui étaient garées. Et il y a donc mes copines étaient devant et moi j'étais derrière, je fermais la marche. Et en fait, à un moment donné, j'ai disparu et elles arrivent au lycée, elles me voient pas, elles comprennent pas et tout ça. Et j'arrive 10 minutes après, elles me disent Mathilde, t'étais où tout ça. Et je dis les filles, j'étais en train de rouler tranquillement et il y a quelqu'un qui a ouvert la portière de la voiture. Et du coup, je me suis pris la portière et je suis tombée machin, et c'était une dame et tout ça, elle m'avait pas vue dans le rétro et tout ça, et du coup le temps que je ramasse tous mes cahiers, parce que bien sûr tout était tombé, mon sac s'était déchiré, enfin bref, du coup je suis arrivée en cours égratignée sur les genoux, les mains machin, Et puis 3 mois après, je fais le test sur Wattbike et puis elle me dit non mais c'est pas sérieux, genre toi Mathis faire du vélo. Je dis bah ouais, écoute, apparemment je suis douée, enfin j'ai de la puissance dans les jambes, je sais pas trop ce que ça va donner quoi. Et puis j'ai essayé la piste et puis bon bah c'était pas comme la route ou un peu le VTT, donc du coup j'ai dit ok bon ça me va, ça a l'air un peu moins risqué, je me prendrais pas des portières de voiture quoi. Donc
ok, bon bah j'espère que que cette petite anecdote t'a pas laissé des souvenirs trop durs, mais en tout cas
c'était marrant. Ouais, c'était marrant. Okay. Surtout c'est vraiment de savoir, enfin quand du coup j'ai basculé sur la piste, parce que du coup après les tests sur Wattbike, t'as un peu parlé en fait entre entraîneurs machin, et t'es remonté jusqu'aux oreilles de la Fédération française de cyclisme. Précisément jusqu'à l'entraîneur du pôle olympique à Saint-Quentin à l'époque. Et du coup, et bah 2 mois après, mes parents ont reçu un coup de fil et tout ça de l'entraîneur olympique. Et ça, moi, je n'avais même pas parlé à mes parents, parce que pour moi, c'était juste irréalisable en fait, et c'était pas possible quoi. Donc c'est vrai que mes parents sont restés un peu choqués au début, ils croyaient pas. Et en fait, deux mois après, je suis montée sur Paris avec eux. J'ai découvert que c'était la piste. J'ai refait des tests parce que du coup, pour vérifier que c'était pas des bocards et tout ça, des fois bouche à oreille, ça enjolive un peu les choses. Donc du coup, j'ai refait des tests, j'ai confirmé. Et puis après le stage d'avril, ils m'ont dit bon bah on aimerait que tu intègres l'INSEP en septembre. On te laisserait terminer ta saison de basket. Et, donc j'avais un tournoi important avec mon équipe en juin. Et du coup en juin, j'ai terminé ma saison. J'ai pris de grandes vacances, toutes les vacances tranquilles. J'ai fait un petit peu de vélo pour découvrir ce que c'était, mais et encore pas tant que ça. Vraiment, j'ai profité de ces dernières vacances, très très longues vacances, et puis après, c'est parti.
Ouais, ok. Bah écoute, trop chouette histoire quoi. Et du coup, tu te retrouves à faire ta première compétition quasiment dans la foulée.
En fait, donc j'intègre l'INSEP en septembre, je tombe de la piste le premier jour, ma première montée sur piste, je me retrouve avec une écharpe énorme dans la fesse, direction l'hôpital. Mes parents m'avaient quitté la veille, ils se sont dit bon, enfin mes parents n'étaient pas très choqués, parce que je suis assez casse-cou, donc c'est vrai qu'ils s'attendaient un peu. Donc quand mon entraîneur les a appelés, en plus, c'est vrai que tout de suite, donc j'ai été entraînée par Herman Terrain. Et du coup, il s'est retrouvé avec moi, et à la base, lui, il devait pas s'occuper de nous à l'INSEP. Donc, c'est vrai qu'il s'est retrouvé, en fait, ça devait être pas lui à la base, mon entraîneur. Et finalement, ça a été lui. Et c'est vrai qu'au début, il s'est retrouvé avec moi, il s'est dit, mais comment, en fait, c'est ça, quoi. Enfin, limite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, enfin, moi, je savais pas vraiment pas faire de vélo, quoi. Donc, vraiment, ça a été au début, même lui, il savait pas trop où on allait et tout ça. Et bon, première fois que je monte sur la piste à l'INSEP, je tombe. Donc,
c'est bon, le vélo à pédale, quoi. C'est les pédales, non?
je sais pas, franchement, ça a été fumonté, puis j'ai glissé dans le virage. Donc, j'ai atterri sur les fesses. Donc, ça a été. Du coup, il m'a emmené à l'hôpital, tout ça, machin. On a pu discuter un peu pour apprendre à se connaître et tout ça, et pour savoir un peu d'où je venais exactement, ce que j'avais fait, enfin voilà un peu mon parcours. Et du coup à partir de là, j'ai mis 2 mois à remonter sur la piste. Donc en attendant, vraiment, je faisais un peu des jeux d'adresse, comme faisaient les gamins à 6-7 ans là. Moi, je faisais pareil au milieu avec un vélo de route et tout ça pour apprendre à l'agilité. Et puis j'ai fait ma première course en janvier, donc assez rapidement, à l'INSEP. Et malheureusement, j'ai fait 2 chutes en un quart d'heure, ce qui n'arrive jamais généralement. Donc à partir de là, je me suis dit je vais arrêter, parce que c'est pas cool, c'est vraiment c'est ça en fait, faire du cyclisme sur piste, non merci quoi. Et en fait, mon père et mes grands-parents étaient venus me voir, et puis en fait, j'ai failli retourner avec eux le lendemain. Ils prenaient le train, et puis au dernier moment, j'ai failli monter dans le train pour rentrer chez moi et retourner à mon parquet, à mes ballons de basket. Et non, mais laisse-toi un an, franchement, t'as pas fait tous ces sacrifices pour rien. Enfin, tu peux pas, sinon ce serait trop beau, quoi. Si tout de suite, t'arriverais à monter tout ça, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, je me dis, laisse-toi un an, je termine l'année, je vois si je progresse et si je suis douée à ça. Et puis, si c'est pas le cas, au moins, j'aurais essayé, pas de regret. Et puis, je serais rentrée chez moi et j'aurais continué le basket dans un petit club. Donc, Donc voilà un peu comment je suis arrivée. Puis après cette chute, j'ai repris le vélo en mars, avril. Ouais. Parce que émotionnellement parlant, j'avais peur, j'avais un peu du mal à monter sur la piste. Ouais, du coup, quand vous enchaînez trois chutes en tout en quatre mois, je me dis en fait ça surprend, ça fait peur, et puis surtout que moi je me dis c'est pas un sport de vitesse. Enfin le basket, au pire on tombe par terre et puis c'est tout. Enfin il y a pas vraiment de vitesse ni de ces sensations là. Et du coup je me suis laissée jusqu'au championnat de France. Au championnat de France en juillet, ça s'est très très bien passé. Et là je me suis dit on part là-dessus quoi.
Ok. Ah, c'est dingue cette histoire. Hein. Tu sais, je sais pas si tu t'imagines si t'avais à prendre ce train. Ça peut jouer à rien, tu vois, si t'avais moins bien dormi la nuit et que tu te dises OK, c'est bon, je rentre, t'es un peu triste et là tu te dis non mais je continue, je m'accroche, et quand on voit derrière la trajectoire que tu as c'est absolument dingue.
Mais même avant ça quand on y repense, faut savoir qu'au Crève on reste 2 ans et après on part. Ouais. En fait, le Crève c'est juste 2 ans. Et moi, j'étais dans ma 2e année quand ça s'est passé. Je me dis, mais ça se trouve, je serais arrivée 1 an avant ou 1 an après. En fait, les wattbikes sont arrivés pile poil ma 2e année pour les BMX et les escrimeurs. Avant, il n'y avait pas de wattbikes. Et je me dis, ça se trouve, les wattbikes seraient arrivés 1 an après. Je ne serais jamais montée dessus. Je n'aurais jamais fait de cyclisme. Ou mon entraîneur de basket à l'époque ne m'aurait pas gardé pour la 2e année. Il aurait très bien pu dire non, tu rentres chez toi, c'est fini, j'aurais pas vu de wattbike. En fait, il y a plein de trucs comme ça, et des fois quand j'y repense je me dis mais en fait tout, à chaque fois, à chaque étape, c'était un fil quoi, c'était une voie sur des millions, et je me dis c'est ouf.
C'est trop beau. Enfin, moi, je trouve que ça rend l'histoire, trop belle, parce que tu vois, c'est effectivement le cyclisme sur piste. C'est un sport un peu plus confidentiel, peut-être un peu moins médiatique et tout. Mais moi, j'adore. Ma mère a fait énormément de vélo étant jeune, plutôt sur route. Mais du coup, tu vois, au jeu, on est toujours, on a toujours suivi la grande équipe des Bleus qui a eu, et à chaque fois, on était devant notre télé pour les grandes finales.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais tu vois, il en reste pas moins que tu vois, il y a peu de gens qui peuvent arriver dans ce sport, tu vois, c'est un peu, il y a le côté un peu vélo, un peu élitiste aussi, peut-être qu'il faut avoir le matériel, et puis je trouve que c'est trop beau, enfin en tout cas cette histoire mêlée de chance et de chute, sans les chutes ça aurait été mieux,
ça forge après, et je pense que ces chutes aussi étaient importantes pour ma construction quand j'étais plus jeune quoi.
Ouais. Et du coup après ces premiers championnats de France, c'est à ce moment-là que tu te dis OK, là c'est mon sport, je peux aller très 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 loin dedans. T'as un espèce de déclic, tu vois, il se passe un truc, t'as une conversation avec quelqu'un, t'as une sensation particulière qui fait que à ce moment-là t'y crois de plus en plus.
Dès le 200 mètres, je bats le record de France. Qui était depuis très longtemps par Sandy Claire, donc peut-être pendant 10 ans par elle. Et ça faisait depuis mars-avril que vraiment je faisais du vélo, donc c'était pas beaucoup. Ça faisait 2-3 mois vraiment qu'on avait pu s'entraîner pour les championnats de France. Donc je bats le record de France, et après je deviens championne de France cadette de la vitesse. Et puis je fais le 500 mètres surclassé chez les juniors. Donc j'étais dans la catégorie au-dessus parce qu'il n'y avait pas de 500 pour les cadettes. Et puis je gagne aussi le 500 mètres donc avec les juniors au niveau des émotions, enfin il y avait toute ma famille, enfin moi j'ai un assez gros fan club, j'ai de la chance et c'est hyper important pour moi qu'ils soient là, et franchement dès le début, donc c'était à Yves, championnat de France, enfin le cadre était magnifique, les émotions étaient top, et puis mon entraîneur était très présent, enfin il l'est toujours, et il était vachement attentif à mes émotions, à mon ressenti et tout ça, et c'est vrai que c'était vraiment tout était top. Et puis j'ai rencontré Grégory Bauger. On s'était déjà vu un peu. J'étais allée voir les championnats de France en 2014, en octobre à Saint-Quentin, donc pour voir un peu ce que c'était vraiment. Mmh. Et ça m'avait marqué. Je l'avais rencontré, j'avais pris une photo avec lui parce que mes parents étaient fans. Et puis bon, moi, je commençais à découvrir ce sport et je savais que c'était une figure importante du club français. Et en fait, il était là et il m'a dit et franchement, ça m'a marqué parce qu'il m'a dit ok, t'as du talent et tout ça, t'as du potentiel, mais maintenant faut bosser quoi. Et si tu veux aller très loin, parce que t'en as les capacités, mais si tu veux aller très loin, là va falloir faire le petit plus et faire plus que les autres quoi. Et là je me suis dit ok, bon, ce mec franchement c'est un très grand champion. S'il te dit ça Mathilde, c'est pas pour tes beaux yeux ou parce que pour te mettre en confiance, sachant qu'il est franc et honnête. Et là je me suis dit ok. Et puis après il est allé voir mes parents, il a discuté avec eux et tout ça, et tout le monde s'est super bien entendu avec lui vraiment, et il a donné des conseils à mes parents tout ça, donc franchement c'était là je me suis dit allez c'est parti, l'année prochaine ça sera niveau européen, donc on verra, et il faut que je bosse quoi, et tout de suite à partir de là ça a enclenché.
Ok, trop cool. Mais j'ai l'impression que Grégory plusieurs fois j'ai entendu parler de lui, et effectivement il a l'air assez charismatique et assez assez leader, non? Et j'ai l'impression
c'était un pilier. Je dis c'était parce que du coup il est parti à la retraite pas longtemps, mais c'était un pilier de l'équipe de France, et de par son palmarès mais aussi son charisme et vraiment sa façon de penser, et surtout que dès qu'il y avait des jeunes qui arrivaient en fait, tout de suite il allait les voir, il les mettait en confiance, il leur donnait des petits conseils et tout ça, et moi c'est vrai que tout de suite on a très très bien accroché, et c'est devenu un ami, plus qu'un ami vraiment, et c'est pour ça que quand il a annoncé la fin de sa carrière, vraiment j'étais très peinée, très déçue mais contente pour lui, parce que je savais que pour lui il pouvait plus pousser son corps, ça fait très longtemps qu'il est en équipe de France, après il y a une autre vie après le sport, et que moi je savais que pour lui s'il arrêtait c'était le moment, donc et encore à l'heure actuelle je lui souhaite tout le bonheur dans tous ses projets futurs et tout ça. Mais c'est vrai, dès le début, après en équipe de France, quand j'ai commencé à faire des déplacements avec les élites et tout ça, lui et Michael Dalmeida, franchement, étaient super sympas avec moi. J'ai tout de suite accroché avec les deux, donc c'était cool.
Ok, bon c'est sympa de te l'entendre dire, et c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance dans le cyclisme sur piste. J'avais cru comprendre que tu avais aussi d'admiration pour d'autres cyclistes, enfin une admiration c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas beaucoup de respect pour une autre cycliste. Il y a eu un événement assez marquant très traumatisant je trouve, avec Christina Vogel. Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais c'était la grande championne, elle a tout gagné, je sais plus quel est son palmarès, mais elle est championne olympique, plusieurs fois championne du monde, et elle a eu un grave accident qui l'a rendu paraplégique. Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de solidarité autour d'elle et beaucoup de bienveillance. Tu vois, et c'est quelque chose que tu confirmes toi dans le milieu du vélo, qui a vraiment dans le milieu du cyclisme sur piste, qui est une ambiance particulière et une très bonne ambiance entre les coureurs.
Ouais, complètement. Franchement, c'est en fait il y a énormément de respect. C'est-à-dire que on peut ne pas être amis avec, et ça c'est logique et normal, avec tous nos concurrents et tout ça, mais il y a un respect permanent entre chaque pays, chaque athlète, que ce soit fille, garçon, vraiment tout le monde se respecte et tout le monde s'entraide aussi. Enfin, moi je sais que j'ai vraiment des très très bonnes amies des étrangères et qui sont souvent mes concurrentes parfois, mais sur la piste, c'est à la vie, à la mort, et c'est je vais tout faire pour se battre. Mais dès qu'on descend de la piste, dès qu'on descend du vélo, c'est un respect, c'est merci. Enfin, je sais pas si tout le monde le fait, si tout le monde le voit, mais à chaque fois qu'il y a un duel, on se serre la main, on remercie l'autre. C'est vraiment comme ça sur la piste. Et c'est vrai que en fait, quand il y a eu cet événement très traumatisant et marquant pour le cyclisme sur piste, il y a vraiment eu un soutien énorme pour elle. Et moi, c'est vrai que ça m'a marqué énormément parce que je m'entends très 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 bien avec elle et elle a toujours été bienveillante envers moi.
Et ouais, c'est une chouette.
On s'est rencontrés une seule fois sur la piste. Elle m'a mis la misère. mais vraiment, ça m'a marqué vraiment. Elle m'a mis la misère et je me dis mais merci parce que grâce à ça, ça m'a tout de suite marqué. En fait, je l'ai rencontrée en finale des championnats d'Europe à Berlin chez elle en vitesse. Du coup, mais vraiment, elle m'a écrasée. Et en fait, ça m'a tellement... je me suis dit, punaise, c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression que je suis une cadette. Et en fait, ça m'a tellement... Du coup, à partir de là, ça m'a poussée et tout ça. Et à la fin, je suis descendue, on a discuté. Et vraiment, ça restera une immense championne. Elle a été, 10 fois championne du monde. Enfin, elle écrasait tout. En fait, vraiment, elle survolait. On se disait tout, mais comment faire pour arriver à son niveau et même être au-dessus parce que vraiment Christina Vogel elle a marqué le cyclisme sur piste de son nom, de son empreinte. Et c'est vrai que quand c'est arrivé ce grave accident, vraiment on était vraiment tous et toutes chamboulées et on a tout pour la soutenir comme on pouvait, pour l'aider et dès qu'il y a des compétitions elle est là, on essaye de se voir, moi je lui envoie des petits trucs, elle m'envoie des petits trucs et vraiment c'est une femme extraordinaire, mais vraiment au-delà de l'athlète, c'est une femme extraordinaire et la force qu'elle a de voir vraiment j'invite à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir vraiment son histoire parce que vraiment même à l'heure actuelle, punaise, elle est méga forte quoi.
Franchement,
c'est une inspiration pour les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde quoi, vraiment c'est pour tout le monde quoi.
Ouais, c'est sûr. Je m'étais pas mal intéressé justement après son accident à son histoire, à son parcours et aussi de voir comment elle réagissait. Et bon, il y a toujours effectivement la partie peut-être un peu médiatique et la partie de façade, mais même dans ces moments-là,
c'est sûr que pendant longtemps elle est restée inactive des réseaux parce que je pense qu'elle a dû accepter sa nouvelle vie et c'est totalement normal, mais après un an elle est revenue et elle a dit il m'est arrivé ça, c'est comme ça, mais bon je suis en vie, maintenant j'ai du temps pour c'est vrai qu'on fait beaucoup de sacrifices dans notre vie, enfin nous on les perçoit pas comme des sacrifices mais c'est vrai que on donne notre vie à notre sport et elle a dit maintenant j'ai du temps donc je vais profiter de ma famille, profiter de mes amis, profiter de vivre. Et c'est sûr que devant les médias toujours souriante, mais même derrière en fait toujours souriante, toujours à t'encourager, à te motiver, alors que elle a rien gagné en fait. Moi quand elle m'encourage, elle me dit je crois en toi et je sais que tu peux faire de grandes choses, alors qu'on n'est même pas dans la même, enfin on n'est même pas de la même nation, on n'est même pas tout ça, franchement c'est des trucs qui touchent et qui marquent quoi.
Mais c'est vraiment une femme exceptionnelle. Donc merci de lui rendre hommage et d'avoir une petite pensée pour elle parce que elle m'a marqué de cette force de volonté et franchement je pense qu'elle va rebondir dans du coach, dans du business ou
elle l'a déjà fait et elle s'est vachement investie auprès de l'UCI pour être elle est ambassadrice du cyclisme. Et par exemple par rapport aux normes de sécurité et tout ça elle a vécu un grave accident et franchement elle est déjà super investie dans plein de causes pour les personnes handicapées mais pour plein de sujets elle a déjà fait tellement de choses et encore il en reste tellement je m'inquiète pas pour elle vu sa force de caractère et sa volonté, moi je dis on la verra très 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 loin dans quelques temps quoi.
Ouais, bah c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est vraiment,
exactement,
vraiment.
Ouais.
C'est clair. C'est. Bah écoute, il y avait peut-être une question que je voulais te poser parce que ça a pas toujours été hyper clair pour moi et peut-être que ce l'est pas pour d'autres auditeurs. C'est que il y a plein de disciplines dans le cyclisme sur piste et notamment qui sont un peu différentes. Et est-ce que tu pourrais les expliquer rapidement, tu vois, et peut-être expliquer aussi rapidement la différence un peu de sensations qu'elles peuvent te procurer ces différentes disciplines.
Bah la première, c'est le 500 mètres départ arrêté. Alors c'est une discipline qui n'est pas olympique, c'est pour ça qu'elle est peut-être un peu moins connue. Pour les personnes, c'est qu'en fait on part dans une machine, un bloc de départ qui tient notre vélo, et il y a un décompte, et puis en fait dès que le décompte, la machine s'ouvre et que le décompte est fini, donc faut vite partir, et donc c'est dur au départ, donc on part de vitesse nulle, zéro,
ouais.
Donc c'est là où il faut lancer le braquet, et nous les filles on a deux tours, et pour les hommes ça s'appelle le kilomètre, donc ils ont quatre tours, vu que la piste c'est 250 mètres. Nous, les filles, on fait 500 mètres et les hommes font 1 kilomètre. Donc,
c'est en 1 contre 1, quoi.
C'est ça, c'est vraiment... en fait, là, on se bat contre nous-mêmes, quoi. C'est faut faire le meilleur chrono, faut faire la meilleure performance. Et à la fin, il y a un classement qui est établi et voilà, le meilleur temps à gagner. Donc, c'est vraiment un peu une lutte contre soi-même.
Okay.
Et donc, c'est pas olympique, c'est deux disciplines. Puis on a le sprint. Alors le sprint, c'est pour commencer le tournoi, on est à peu près entre 20 et 30 participants, 2 fois 35, donc ça dépend. On va faire un 200 mètres lancé, donc on part de la balustrade, on est poussé, on a 3 tours et en fait on doit faire un 200 mètres donc le plus vite possible en fonction du temps qu'on a fait. Ils élaborent un classement. En fonction du nombre de participants ou quoi, ils prennent tant de personnes, donc des fois les 20 premières, les 22 premières, les 24 premières, et enfin les 24 premiers temps par exemple, et du coup le classement établi, et ensuite on va aller en sixième de finale, donc le premier temps contre le dernier, deuxième temps contre avant-dernier, puis à les huitièmes, les 16e et les 8e c'est en one shot. En fait on part sur la ligne, on tire au sort en fait le numéro 1 ou 2 avant de monter sur la ligne. Donc imaginons, moi je tire le 1, je me mets en position la plus proche du bas de la piste sur la piste, l'autre est à côté de moi, et là on a 3 tours, et là ça va être au début on va se regarder, savoir un
c'est
peu
un duel.
Ce que veut faire l'autre, ouais voilà, c'est vraiment un duel, 3 tours, et la première qui passe la ligne a gagné. Et donc là il y a les 16e, les 8e, les quarts de finale sont en 2 manches, donc avec possibilité d'avoir une belle, parce que si on gagne la première manche et si l'autre gagne la deuxième, bah il y a une belle. Les demi-finales et les finales. Donc à la fin, c'est vraiment un tournoi sur une journée ou des fois sur 2 jours, ça dépend. Et du coup, donc on part d'un temps au début réalisé par le 200 mètres, ce qui nous définit après le tournoi. Donc c'est important de faire un temps de fin, quoi.
C'est hyper intense, quoi. Si tu te retrouves à faire quart de finale, demi et finale en 3 manches, ça te fait. Ça fait 9 courses à faire.
Il faut
avaler les sprints.
C'est ça, on est un peu endurant quand même parce que pour avaler les sprints, c'est des sprints à chaque fois à 200%. C'est pour ça que c'est important de tenir dans le temps et de faire des fois du volume pour pas qu'on commence le début du tournoi en feu et qu'à la fin, il n'y ait plus d'essence, quoi. Et de passer à côté d'une médaille et terminer 4e parce qu'on n'a pas tenu sur la distance.
Et comment tu fais d'ailleurs pour récupérer entre deux courses, tu vois, ou qui sont très rapprochées, parce que tu vois, t'as une espèce, je sais pas, de chute d'énergie un peu généralement après un sprint ou.
On s'entraîne et des fois on fait des gros entraînements, enfin souvent pour apprendre à enchaîner les sprints, des fois souvent tous les 15 minutes. Donc des fois c'est très rapide à l'entraînement et comme ça quand on est en compétition c'est plus espacé. Des fois ça peut être 1 heure après pour faire la 2e manche ou des fois ça peut être 10 minutes après pour faire la belle. Donc c'est vrai qu'à l'entraînement on s'entraîne pour ça, on s'entraîne vachement pour ça. Et puis après en compétition on récupère, on s'alimente, on s'hydrate, on roule un peu sur notre rouleau pour drainer les jambes, pour que éliminer les toxines, faire redescendre notre rythme cardiaque, redescendre aussi en pression, en stress, et après se remettre dedans quelques minutes avant pour pouvoir être aussi disponible, parce qu'il faut pas non plus s'endormir. Donc c'est quelque chose qu'on apprend à gérer dès notre plus jeune âge, et voilà, au fur et à mesure, avec l'expérience et tout ça, on arrive de plus en plus à le gérer.
Ok. Et tu peux expliquer du coup ce que c'est que le Kérine, parce que j'ai l'impression que toi c'est ouais. ta discipline reine. C'est hyper impressionnant. Franchement, quand je regarde tes courses, je me dis waouh, wow, c'est ça part dans tous les sens et tout. C'est hyper impressionnant.
Ouais, en fait, le Kérine, donc c'est une discipline qui a été inventée au Japon et elle est rentrée aux Jeux Olympiques il y a pas si longtemps que ça. Parce que du coup en fait c'est 6 personnes, on est 6, pareil, on tire au sort avant de monter en piste, on tire les numéros, on se positionne en fonction du numéro qu'on a choisi sur la ligne de départ, et là il y a une moto en fait qui va passer, on va aller chercher la moto, et du coup pendant 3 tours la moto va nous lancer, donc on va être à la queue leu leu, on doit respecter bien correctement les numéros qu'on a choisi, et là du coup en fait on la moto nous lance, donc elle va nous lâcher à 50 km/h à peu près. Et en fait, ça va faire 3 tours. Elle va s'écarter au bout des 3 tours. Et là, il va rester 3 tours pour nous, en fait, pour la première qui passe les lignes a gagné. Donc, c'est un peu un mini peloton, en fait, qui se tire la bourre sur les 3 tours qui restent. Et généralement, c'est là où il y a le plus de chutes parce que ça frotte et qu'on va quand même à 60-70 km/h. Donc, du coup, c'est assez tactique. Il y a un petit côté avec de la chance, mais vraiment, faut prendre plein de paramètres en compte. Et en fait, ça va très vite, ça bouge énormément. C'est comme un moulon qui bouge, en fait, qui bouge tout le temps, quoi. Donc, c'est assez sympa à voir aussi.
Et du coup, attends, pour bien comprendre, vous tirez au sort avant la course quel va être l'ordre que vous devez suivre derrière la moto.
C'est ça.
Et vous devez respecter cet ordre-là, et au moment où la moto lâche, là, tout carte blanche pour terminer la première.
En fait, on n'a pas le droit de changer d'ordre tant que, en fait, imaginons, moi, au dernier moment, je veux passer devant, imaginons, j'ai tiré le 6, et je dois attendre que la moto descende de la piste, et à partir de là, je peux un peu anticiper, mais j'ai pas le droit de passer devant la moto. Même à côté, quoi. C'est vraiment, dès que la moto s'écarte, là, ça y est, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, chacun met sa stratégie en place.
Ok, et du coup c'est j'imagine que si t'es la première, tu dois du coup t'es en tête de peloton, donc tout le monde est dans ta roue et c'est toi qui a le plus la pression, quoi. Mais si t'es sixième, t'es celle qui a la plus d'aspiration, mais t'es tout derrière. Du coup c'est quoi la meilleure position, en tout cas celle que tu vas apprécier le plus?
Il y a pas de meilleure position, honnêtement. J'ai fait toutes les positions et toutes elles ont leurs défauts comme leurs qualités. Et ça va vraiment dépendre de la forme du moment, de savoir qui est avec nous, si c'est des filles qui lancent de loin, si c'est plutôt des filles qui te regardent, qui t'attendent, parce que ils savent que je vais lancer de loin, donc du coup c'est que des filles qui sont en attente de mon action, ou alors c'est des filles justement qui lancent de loin aussi. Donc en fait il faut prendre des décisions hyper rapidement, et des fois c'est la bonne et des fois c'est la mauvaise, mais c'est vraiment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise position, en fait. Donc, c'est savoir gérer, en fait, tout le temps, faire son action soi. C'est plus ça, en fait, pas subir et faire son action. Et c'est ça qui est des fois très compliqué, en fait.
Ouais, j'imagine, ouais. Et tu te renseignes un peu sur le profil des coureuses. Enfin, j'imagine qu'avec le temps, vous connaissez toutes plus ou moins dans le style et tout, mais tu te renseignes un peu, par exemple, tu vois, je sais pas, avant une course, tu vas tomber face à 5 autres cyclistes, tu vois, et te dire, ok, là, il y en a 2 qui partent très tôt, il y en a une.
Ah, mais oui, ça c'est obligatoire, parce que du coup, on sait que elle attend et elle part tôt. On sait que elle sait bien faufiler, donc elle peut prendre toutes les roues possibles et que du coup elle sait très bien courir. On sait que elle c'est un peu plus elle se met devant et elle enroule. En fait, on a déjà toute notre étiquette en fait sur notre tête. Et après, il faut faire un mix, il faut faire il faut trouver la meilleure stratégie possible pour passer la ligne en première à la fin, quoi.
Ouais. Ok. Et sachant que ça dépend en plus de l'ordre avec lequel vous êtes mis au départ, quoi.
Donc c'est ça.
Ça devient très complexe.
En fait, on peut pas en fait dire juste avant la course, bon bah je vais faire ça et puis voilà quoi. En fait, ouais. si on part là-dessus, enfin j'ai déjà fait, ça mène à rien quoi. Ça mène à la défaite parce que ça bouge tout le temps et en fait il faut savoir être très réactif et s'adapter. En fait, c'est l'adaptation perpétuelle. Et si on arrive prédéfini déjà avec une tactique, c'est mort. Si jamais la course change, bah du coup on se dit bah mince, je fais quoi quoi. Donc c'est sympa.
Ouais. Ok. Bah écoute, ouais, c'est hyper intéressant. Franchement, c'est trop cool en plus de l'entendre de te l'entendre dire parce que bah du coup il y a ce côté un peu effectivement avec les mots du haut niveau, tu vois, où ça rajoute encore plus de concret, c'est hyper hyper cool et du coup toi sur toutes ces disciplines, tu vois, laquelle toi tu as de meilleures sensations ou est-ce qu'il y a des différences de sensations, une que tu as préférée ou moins, est-ce que comment est-ce que tu les ressens différemment?
J'aime toutes les disciplines. Franchement, le keirin, j'adore ça, la vitesse aussi énormément, sachant que bon bah l'année dernière j'étais plus performante sur le keirin, alors que au début, il y a 2 ans j'étais plus performante sur le sprint. En fait, il n'y a pas de discipline où je me dis je préfère le keirin parce que j'ai gagné, je préfère la vitesse parce que j'ai gagné là. C'est vraiment, j'aime les deux. C'est des disciplines différentes, sachant que la vitesse, c'est très duel, c'est très un contre un. Et le keirin, c'est un peu plus, bon, bah là, OK, il y a telle fille, faut sentir ça, il y a beaucoup d'aspiration, il y a beaucoup de mouvements. Donc, vraiment, c'est deux disciplines différentes qui se complètent, je trouve, et qui se rejoignent sur pas mal de points. Mais franchement, j'adore les deux et il y a pas de, enfin voilà, je sais que on me demande souvent, bah tu préfères la championnat de keirin ou de vitesse? Franchement, je dis une des deux, je m'en moque au moins une des deux. Donc ouais. Voilà quoi.
Ok. Et peut-être dernière question un peu par rapport à l'organisation, parce que du coup sur un championnat, il y a le sprint, le keirin, la vitesse. Vous avez combien de temps de récup entre chacune des épreuves, sachant que sur chaque épreuve il y a plusieurs étapes, comment ça dure, combien de temps ça dure, une semaine, et en une semaine vous arrivez à tout caler, enfin
ça dépend des championnats. Si on part sur un format un peu championnat, parce que Coupe du Monde c'est encore différent, mais championnat, ouais, bah généralement c'est le mardi la vitesse par équipe, non pardon, le mercredi pour nous, donc mercredi vitesse par équipe, donc en une journée. Le jeudi et vendredi c'est le sprint, donc jeudi commence le 200 mètres, ça va jusqu'en quart de finale, et le lendemain on a les demi et les finales. Le samedi 500 mètres et le dimanche keirin, pareil en one shot, le tournoi c'est toute la journée, donc avec qualif, repêchage s'il y a, les quarts de finale, demi-finale et finale. C'est un tournoi de keirin et c'est en une journée pareil. Donc voilà. Okay.
Ouais, donc c'est
que,
aussi.
Ça peut aller, Coupe du Monde par exemple, il n'y a pas de 500 mètres ni de kilomètres pour les hommes. C'est vitesse par équipe le vendredi, samedi la vitesse, dimanche le keirin. Donc des fois en fait ça dépend, mais vu que c'est des fois très loin, etc., en fait ils font ça sur 3 jours. Alors qu'un championnat typique c'est 5 jours avec une épreuve en plus.
Ouais, ok, ouais. Ouais, donc il y a aussi une compétition de celui ou celle qui va tenir
le mieux
les. Donc vu que tu rafles beaucoup de médailles en keirin, là, ça veut dire que le dernier jour, c'est toi qui pète la forme encore et que.
Bah, des fois, ça dépend, hein, parce que des fois, je me suis éliminée en 8e la veille, donc je ne suis pas beaucoup fatiguée, on va dire. C'est déjà arrivé aussi, donc franchement, non, c'est vrai que c'est. Il faut tenir, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, franchement, on est toutes assez pareilles. On est quasi toutes pareilles. Enfin voilà, il y a un contre-exemple. Enfin voilà, celle que moi j'ai déjà vue à Berlin, l'Allemande qui a tout gagné, qui a été championne du monde de vitesse par équipe, elle a fait les 3 tours. En vitesse, elle a fait tout le tournoi, et en keirin, elle a fait tout le tournoi, et pourtant elle a tout gagné. Donc des fois, ça veut rien dire, mais voilà, en tout cas, il faut garder chacune de son côté le plus de jus possible à chaque fois et bien récupérer surtout entre les épreuves, pour être la plus en forme possible à la fin.
Ouais, ok. Ok. Bon bah écoute, hyper intéressant. Je suis captivé. Donc merci beaucoup. Le retourne pas mal et pour un peu la fin, j'avais des petites questions. C'est soit les questions un peu des auditeurs, soit des questions un peu. J'aime bien dire les questions télé quoi. Tu peux y répondre soit de manière du tac au tac, mais si t'as envie de les développer, sans toi libre. C'est des questions assez inspirantes. Okay. Ça te dit de jouer le jeu ?
Allez, c'est parti.
La toute première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi ?
Une bonne journée pour moi, c'est des bons entraînements où j'ai fait des super temps et je me sens bien.
Ok. Très simple. Et ouais. ton plus beau souvenir de sport ?
J'en ai pas mal. Mais on va dire c'est quand je suis devenue pour la première fois championne d'Europe de Kérine à Glasgow à 19 ans, donc chez les élites. Voilà.
Ok. Bah j'imagine ça devait être marquant.
Sachant qu'il y avait mes parents et ma grand-mère dans les tribunes, c'était incroyable.
Ok. Est-ce que t'as un petit gris-gris ou un petit objet qui te porte bonheur?
Bah moi à chaque compétition j'ai une petite croix en collier et c'est vrai que depuis ma chute enfin voilà je la mets tout le temps et je me sens un peu protégée et du coup c'est mon petit porte-bonheur quoi.
Ouais, ok. Et c'est vrai qu'on l'a pas trop abordé, mais t'as eu une chute toi aussi très impressionnante. C'est quoi, c'était en 2018 il me semble?
2017,
ouais, ok.
Ouais, novembre,
et, fracture de l'épaule et tout, c'était...
Ouais, ça a été ma plus grosse chute. Enfin, je touche du bois, parce qu'on n'aura pas d'autres, voilà. Mais ça fait partie du jeu. Et chaque cycliste a déjà eu une méchante chute. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Donc, ouais. Voilà. Bon, j'ai appris à la gérer et voilà, ça fait partie du jeu.
Ok. Et on a pas mal parlé de rencontres là durant cette conversation. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui a été décisive dans ta carrière ? Tu peux y en avoir plusieurs d'ailleurs.
C'est pas forcément des rencontres. En fait, j'ai eu la chance de tomber à chaque fois sur les bonnes personnes. Mais si je dirais la rencontre, c'est avec mon entraîneur. Franchement, c'est... J'étais pas censée l'avoir comme entraîneur et lui, il était pas censé m'avoir comme athlète. Et en fait, je remercie un peu ma bonne étoile parce que du coup, ça m'a mis sur sa route et on s'est retrouvés à un moment donné au tout début de ma carrière. Et à l'heure actuelle, c'est toujours mon coach et j'espère qu'il restera encore très, très, très longtemps.
Ok, bon écoute c'est tout ce que je vous souhaite tous les deux. Le duo a l'air de bien marcher et puis puis lui aussi c'est un grand nom du cyclisme français donc c'est cool. Je pense que vous faites un très joli duo quoi. Merci. Et si tu pouvais revenir, si tu pouvais te transformer, je sais pas, en soit une petite souris ou une petite hirondelle et te glisser un mot juste avant ton premier départ à l'INSEP. Et tu pouvais te donner un conseil un peu magique. Qu'est-ce que tu te dirais ?
Je me dirais, crois en toi, le travail paye toujours.
Très beau.
C'est ce que me disait mon père à chaque fois. Et c'est vrai qu'au basket, j'en ai pas mal bavé. Et en fait, les gens se rendent pas compte que même au vélo, j'en ai pas mal bavé. Et que c'est pas parce que j'allais vite sur un wad bike que forcément j'irais vite sur la piste. Et c'est vrai que j'en ai vraiment pas mal bavé quand j'étais jeune. Enfin, j'ai eu beaucoup de blessures au basket. J'ai failli arrêter tout ça. Donc c'est vrai que mon père à chaque fois me disait mais et tu verras, la roue elle tourne, le travail paye toujours, ça se fait, que ce soit dans les études, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, enfin, tu verras, le travail paye toujours. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette porte qui s'est ouverte, je me suis dit, c'est ok. Et donc, du coup, je me dis, allez, Mathilde, même s'il y a des moments où c'est dur, où t'as pas tes médailles, où t'as pas de réussite, continue, ça va payer.
Ok, Ok, trop chouette. Et comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Dans 10 ans, j'aurai 31 ans.
Une médaille, je pense.
J'espère que j'aurai atteint tous mes objectifs et mes rêves. Et je pense que, je sais pas, moi, après, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais au moins, j'espère avoir réussi tous mes objectifs, avoir déjà un beau projet professionnel pour la vie après sportive. Et avoir fait rêver les Français.
Mais écoute, j'ai une grosse table en bois juste à côté de moi, j'ai les deux mains dessus et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Écoute, je pense qu'on sera tous devant tes exploits et je suis sûr que tu nous réserves de grandes choses, donc vraiment bonne chance et c'est sûr que tu vas y arriver, franchement. Il y a aucun doute là-dessus. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist de musique préférée?
Alors, on trouve de tout. J'ai du Rihanna comme du Michel Sardou. J'ai du Patrick Bruel comme du Beyoncé. Franchement, ça me permet de m'évader. Et franchement, j'ai un peu de tout, quoi.
Ok. Déjà, on a eu quelques échantillons, donc c'est pas mal. c'est quoi ton film préféré? Est-ce que c'est un film qui t'a marqué?
Alors, j'en ai deux vraiment. J'ai plus Bienvenue chez les Ch'tis, qui est assez côté famille, parce que ma mère est Ch'ti et mon père est Marseillais. Et c'est vrai qu'on a regardé 15 fois à la maison. Donc, c'est un peu l'histoire de notre famille, quoi, en gros. Donc, c'est vrai que non, franchement, je suis 50-50. Hein. Je suis née dans le Nord, mais j'ai habité autant dans le Sud. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment ces deux familles-là. Et puis, sinon, c'est The Notorious. McGregor, okay. Là vraiment ce mec, c'est, enfin, j'ai vu le film, je me suis dit ah ouais non mais là c'est hyper motivant, hyper inspirant, avant une compète ou quoi que ce soit, franchement c'est ces deux films.
Ok, c'est un film Netflix?
Ouais, c'est un film Netflix qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et j'ai découvert et franchement ça m'a marqué.
Eh ben écoute, je me le note pour moi parce que
il est vraiment bien, vraiment bien.
Ok. les auditeurs savent que j'ai pas Netflix et à chaque fois que, une fois sur deux que je demande un film à un athlète, une fois sur deux c'est un truc Netflix et du coup, j'ai demandé à un proche là de si je pouvais avoir un petit peu son compte et du coup je suis en train de me faire ma petite liste et je pense que je vais binge-watcher tous les documentaires et les films de sport qu'il y a pu avoir parce que il commence à en avoir beaucoup que je loupe. Donc, ok. Écoute, trop cool parce que, écoute, on me l'avait jamais recommandé et écoute, ça me tente vraiment bien. Donc,
nickel alors.
Trop chouette. Et la toute dernière question, c'est de savoir quelle est la prochaine sportive ou le prochain sportif que tu imaginerais, enfin que tu aimerais bien écouter sur ce podcast. Ça peut être quelqu'un, un athlète que tu connais, un athlète qui t'inspire beaucoup. Mais qui est-ce que tu verrais bien pour répondre à une petite conversation comme celle-ci?
Alors il y en a pas mal, mais je pense à Roman Dico.
Ok, d'accord. Pourquoi?
Parce que elle a vécu des hauts, elle a vécu des bas, et elle est devenue championne d'Europe chez les élites. On a à peu près le même âge, et c'est une fille que franchement j'adore, qui a les mêmes valeurs que moi, et que j'accroche super bien avec elle. Et franchement, pareil, vraiment, on a participé ensemble au Resto du Cœur, on est ensemble à la FDJ, on est ensemble, sur plein de sujets, plein de trucs, et j'ai partagé des bons moments avec elle. Et vraiment, c'est une fille, je pense, qui a vraiment une histoire aussi, qui pourrait vraiment plaire à tout le monde, et je pense que c'est important pour elle qu'elle soit aussi, qu'on la découvre en fait. Donc, je dirais, Roman Dico.
Eh ben, écoute, je note pour Roman. Je t'avoue que je la connais très peu, avec grand plaisir. Eh ben, je vais lui envoyer un petit message dès qu'on va raccrocher. Écoute, Mathilde, merci infiniment pour ta générosité, pour ces petits bavardages et tout. C'était vraiment trop chouette de pouvoir rentrer un petit peu dans ta petite vie et tout. C'est vrai que t'es hyper naturel, hyper spontané. Et moi, j'aime beaucoup te suivre sur les réseaux parce que je trouve que tu mets du contenu cool et c'est assez. Enfin, c'est même très spontané. Et je trouve que tu dégages plein de choses positives autour de toi. Donc j'encourage tous les auditeurs d'ailleurs qui nous écoutent là encore maintenant aller te suivre sur les réseaux sociaux. Je pense que sur Instagram c'est peut-être le réseau sur lequel on peut suivre le plus d'actualités que tu postes.
Oui, c'est vrai que Instagram c'est vraiment pour moi mon plus gros réseau. Après c'est vrai que tous mes posts sont aussi postés en même temps sur Facebook parce que je sais que il y a pas mal de gens qui sont Facebook, donc c'est vrai que vraiment j'ai lié les deux comptes comme ça et il y a les deux comptes ouais. À chaque fois il y a le même contenu et tout ça, mais voilà quoi.
J'encourage tous les auditeurs à aller te suivre dès maintenant. Ton compte c'est gros.mathilde, il me semble, de mémoire.
Ouais.
Dis-moi si je me trompe. Ah cool. Et écoute, merci infiniment. C'était une super conversation. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci aux Étoiles du Sport, merci à la MGN Academy pour avoir rendu ça possible. C'était très cool. Voilà.
Ouais, tout à fait.
À bientôt, Mathilde.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.